Deuxième roman de notre série consacrée à la littérature africaine. Photo de groupe au bord du fleuve de Emmanuel Dongala. Paru en 2010 aux éditions Actes Sud. Roman réaliste sur la condition des femmes en Afrique à travers la lutte d'un groupe de 9 femmes pour la reconnaissance financière de leur travail. Casseuses de pierre. Alors en quoi précisément ce roman peut-il être défini comme réaliste ?
Non, il s'agit bien d'une œuvre de fiction. Les personnages sont fictifs, les situations sont fictives également. Mais le propos est essentiellement descriptif des conditions de vie africaines, aujourd'hui encore, et dans de nombreux pays. Ainsi, à travers le combat des personnages, sont décrites et dénoncées nombre de difficultés que connaît la société africaine. La corruption, le patriarcat, les violences policières, celles faites aux femmes, les détournements de l'état de droit, l'économie parallèle, la précarité...
Et c'est d'ailleurs un genre qu'affectionne l'auteur, Emmanuel Dongala. Mais que sait-on de lui ?
Bien d'abord, il est né en 1941 à Elindao, en République centrafricaine, d'un père congolais et d'une mère centrafricaine. Après des études en France et aux États-Unis, il retourne à Brazzaville en tant qu'enseignant de chimie. Il est aussi très impliqué dans la vie culturelle de son pays. Il anime le théâtre de l'éclair et écrit ses premiers romans. Il est engagé également dans la vie politique. Ainsi, il sera forcé à l'exil suite aux guerres fratricides des années 1990 dans son pays. Il se réfugie alors aux États-Unis où il obtient un poste universitaire grâce à un mouvement de solidarité auquel participe notamment Philippe Roth.
Sa vie a donc un rapport étroit avec le contenu de ses livres.
Oui, et c'était déjà le cas avec son premier roman paru en 1973 au titre évocateur. Un fusil dans la main, un poème dans la poche, qui traite de la situation en Afrique dans les années 1960. D'une part, le colonialisme et l'impérialisme des Blancs qui s'accrochent, et de l'autre, les États indépendants qui s'installent dans la dictature. On retrouve encore ce réalisme dans son roman le plus connu sûrement, et par ailleurs adapté au cinéma, Johnny Chien Méchant, qui se déroule également au Congo et dénonce les enfants soldats, la guerre civile et l'espoir d'un monde meilleur grâce à la réussite scolaire ou l'exil loin du continent africain.
Le monde africain décrit par Dongala est donc très pessimiste, très désespérant.
Pas forcément cependant, car si les situations sont décrites effectivement sans filtre et n'épargnent pas les violences, notamment celles faites aux femmes violées, soumises par la force physique et matérielle, il y a toujours de l'espoir, des pistes, des propositions dont on devine qu'elles peuvent être des solutions. L'éducation, la solidarité par exemple.
Effectivement, c'est le cas pour Photos de groupe au bord du fleuve. Ces femmes qui mènent un juste combat finissent par réussir à imposer leurs revendications malgré tous les obstacles qu'on leur oppose. Intimidation, vol, violence, corruption. Ne trouve-t-on pas également cet optimisme à travers son écriture ?
Tout à fait, car il y a paradoxalement pas mal de drôleries et même de bouffonneries mêlées de dérision dans l'écriture de Dongala. Les personnages masculins sont ridiculisés, les femmes de pouvoir moquées. La forme de ce roman s'apparente un peu à la tradition orale africaine. Le texte est une adresse au personnage principal par un narrateur qui l'apostrophe à travers une sorte de discours indirect libre qui s'adresserait à un public présent.
Résumé, un groupe de 9 femmes que des situations de violence ou d'urgence conduisent à concasser des pierres, travail exténuant, se mobilisent pour faire valoir leurs droits. Elles mènent alors un combat politique, social, humain, afin de recouvrer une justice sociale, mais aussi de gagner en autonomie au sein de la société et un bonheur au sein de leur famille.
Extrait 1. Le vrai prix du travail. Tu arrêtes la radio et maintenant en route pour le chantier. Chantier est un bien grand mot d'ailleurs pour cette grande aire jonchée de grosses pierres et de rochers le long du fleuve. En cette saison, c'est l'étiage. La meilleure période de l'année car on a moins de difficultés pour trouver la pierre. C'est l'époque où de gros blocs de grès jusque-là immergés se découvrent après le retrait des eaux éparpillés sur le lit majeur du fleuve. Ces roches, brisées en gros blocs puis concassées, donnent le gravier utilisé dans tous les travaux qui ont besoin de pierres, du béton armé au simple gravillonnage des routes de terre. En route, tu fais le crochet habituel par le domicile de Tantine Turia pour y déposer l'Ira. Tu as bien de la chance, car Tantine garde la petite toute la journée, alors que certaines femmes du chantier sont contraintes de trimballer leur gosse avec eux, comme Batatou avec ses deux jumeaux. Lyra est toujours heureuse de voir sa grand-tante. À peine cette dernière l'a-t-elle prise dans ses bras qu'elle t'interpelle à brûle-pourpoint. « C'est vrai, Méré, que vous avez décidé de refuser de vendre le sac de gravier à 10 000 francs ?»« Oui, Tantine, c'est la décision que nous avons toutes prise à l'unanimité, mais on ne sait jamais. Aujourd'hui est un jour capital. Nous allons savoir si nous sommes assez fortes pour ne pas céder. Surtout, ne te laisse pas entraîner dans des trucs politiques, ma fille. La politique, ce n'est pas bon. Elle a tué ton oncle. Ne t'inquiète pas, nous voulons tout simplement vendre notre marchandise à un prix raisonnable. Allez, il faut que je me sauve. »
Extrait 2. La colère des femmes. Arrivée devant la prison du commissariat, cette prison notoire pour ses cachots où l'on torture encore, la foule éclate spontanément en chansons ponctuées de « Libéré Moyalo, libéré Mouquetou, libéré Osolo », trois battements rapides des mains, « Libéré nos camarades ». Le bruit est d'autant plus impressionnant que vous êtes sincèrement en colère, très en colère. Non seulement ils vous ont volé votre marchandise, ils vous ont battu, mais en plus, ils vous jettent en prison. Votre détermination est d'autant plus grande que maintenant, vous ne vous sentez plus seul, entouré de cette foule d'hommes et de femmes. Dans ce pays, le crépuscule ne dure qu'un instant. La nuit tombe très vite. Vous ne savez pas depuis combien de temps se poursuit ce raffut devant la prison. Toujours est-il qu'à la fin, un colonel de police sort. Pas celui qui vous avait tabassé au chantier avec ses hommes, mais un autre que vous ne connaissez pas. Il vous demande de rentrer calmement chez vous, car selon lui, on ne règle pas les affaires d'État la nuit. Ainsi donc, votre affaire était devenue une affaire d'État, pas moins. Tes compagnes te poussent en avant. En tant que porte-parole, tu prends la parole et lui réponds fermement que vous ne quitterez pas cet endroit sans vos trois camarades. Il se fâche en entendant cela, et hurle que ce n'est pas à vous de lui dicter ce qu'il doit faire, et que si dans 5 minutes vous n'avez pas dégagé, il vous fera vider à coups de matraque. Femmes, hommes, tous se mettent à le huer. Il sent qu'il ne maîtrise plus la situation, et il bat précipitamment en retraite, en portant son talkie-walkie à la bouche, probablement pour informer sa hiérarchie et demander des consignes. Vous redoublez alors vos cris et vos chants, cette fois accompagné de sifflets et de lazzi.
Extrait 3. Les femmes comme armes de guerre. Par contre, Tito vient de te livrer une information importante que tu n'avais pas, celle de la réunion des épouses des présidents africains dans votre ville. Pour améliorer la condition féminine, a-t-il dit ? Mais alors, pourquoi la première dame de votre pays n'est-elle pas venue vous voir dans votre chantier ? Tu regardes tes mains de jeune femme de 30 ans, ses mains dont les cales deviennent de plus en plus visibles à force de cogner sur des cailloux malgré les pommades avec lesquelles tu les masses chaque soir après les avoir trempées dans de l'eau chaude. Améliorer votre sort? Combattre le sida? Ah, comme cette première dame t'avait fait mal juste après le décès de ta sœur morte de la maladie. Tu l'avais écoutée à la radio. C'était une réunion pour éduquer les fiers combattants de notre vaillante armée pour qui le viol était devenu une routine. Je demande à nos soldats de ne pas violer. Sachez que, si vous violez, vous risquez d'être contaminé par le virus à votre tour. Ne violez pas, non pas parce que violer est un acte de violence, un crime passible de sanctions les plus sévères, mais ne violez pas parce que les femmes, coupables comme toujours, risquent de vous contaminer, vous, braves soldats. Tu as eu du mal pour ta sœur, qui, de victime, était devenue coupable. Non, tu te passerais bien à des réunions de ces femmes de chef.
Extrait 4. Un discours de combat. Chères sœurs et camarades, nous sommes des femmes qui essayons de gagner notre vie en cassant et en vendant la pierre. Il y a parmi nous des femmes qui sont allées à l'école et des femmes qui ne savent pas lire. Il y a des jeunes et des plus âgés. Il y a des femmes mariées et des célibataires, des veuves et des divorcées. Nous n'attendons pas que l'État nous donne un salaire. Non, nous sommes des femmes actives. Et tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous achète notre marchandise à son juste prix. Les applaudissements de la foule te donnent plus d'assurance encore. Tu veux parler à toutes ces femmes qui vous accompagnent, qu'elles soient du chantier ou pas, mais aussi aux mouchardes et aux mouchards présents. Tu continues en faisant l'historique des deux jours passés pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Tu parles du nouvel aéroport, de la flambée du prix de la caillasse, de votre refus de vendre, de la violente répression et tu continues. L'union fait la force. C'est parce que nous étions des dizaines devant la prison du commissariat qu'ils ont relâché nos camarades, Moukietou, Moyalo et Ossolo. Je vous le dis, mes sœurs, ce n'est que de la même façon que nous récupérerons les sacs qu'ils ont volés. Ces hommes qui ont volé nos cailloux pensent que parce que nous sommes femmes, nous allons nous taire comme d'habitude. Quand ils nous battent au foyer, nous ne disons rien. Quand ils nous chassent et prennent tous nos biens à la mort de nos maris, nous ne disons rien. Quand ils nous paient moins bien qu'eux-mêmes, nous ne disons rien. Quand ils nous violent et qu'en réponse à nos plaintes, ils disent que nous l'avons bien cherché, nous ne disons toujours rien. Et aujourd'hui, ils pensent qu'en prenant de force nos cailloux, encore une fois, nous ne dirons rien. Eh bien non, cette fois-ci se trompe. Trop, c'est trop. Toujours debout sur ta chaise, tu continues à haranguer. Tu ne savais pas que les mots pouvaient avoir ce pouvoir enivrant. Plus tu parles, plus tu es exalté, plus tu te sens sortir de toi-même. Tu n'es plus toi, tu n'es plus Mériana. Tu es une des passionnarias de l'histoire. Tu es cette noire américaine dont tu ne te rappelles plus du tout le nom, mais dont le leitmotiv d'un célèbre discours à une convention de femmes te remonte spontanément à la mémoire. Ne suis-je pas une femme ? Ne sommes-nous donc femmes que pour souffrir ? Tu lances en un cri venu du plus profond de ton cœur. Non, non et non, nous irons camper devant le commissariat avec nos nattes et nos enfants, et nous ne partirons pas de là tant qu'ils n'auront pas rendu nos sacs ou tant qu'ils ne les auront pas achetés. À 20 000 francs, crie une femme. Oui, à 20 000 francs, ou au nouveau prix que nous allons négocier, mais en tout cas, pas à 10 000 francs comme avant. Sinon, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, nous resterons devant ce commissariat, avec nos nattes et nos enfants. Et nos maris aussi, lance une autre femme. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Rire et applaudissements. De la foule des badauds, une voix crie. Je sais que nous n'avons pas la parole ici. Mais nous, les femmes qui souffrons au marché, nous allons nous joindre à vous. Nous allons marcher et camper avec vous. Nous amènerons nos enfants et nos maris aussi, puisque, comme l'a dit la sœur, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Tu es étonnée toi-même de la tournure des événements. Lorsqu'elles t'ont fait monter sur cette chaise tout à l'heure, tu n'avais aucune idée de ce que tu allais dire et encore moins faire. Et voilà que maintenant, tu as la tête d'une légion de femmes volontaires. Tu es étonnée toi-même de la tournure des événements. Lorsqu'elles t'ont fait monter sur cette chaise tout à l'heure, tu n'avais aucune idée de ce que tu allais dire et encore moins faire. Et voilà que maintenant, tu es à la tête d'une légion de femmes volontaires pour aller prendre d'assaut un commissariat de police. N'es-tu pas allée un peu vite en besogne ?
Extrait 5. Rencontre avec une ministre. De toute ta vie, tu n'étais jamais entré dans le bureau d'un ministre et encore moins n'avais rencontré un ministre en chair et en os. Avec tes tongs bon marché en plastique, ton jean sale et filouché par endroits, ton t-shirt taché de sang et d'une couleur pisseuse à force d'absorber la sueur et les poussières ocre du chantier, avec ta lèvre tuméfiée, tes cheveux ébouriffés, intimidé malgré toi et ne sachant que faire, tu t'arrêtes à mi-chemin entre la porte et le bureau du ministre. Jamais tu n'aurais imaginé qu'une ministre puisse être aussi abasourdie. La bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, elle te regarde, comme si le plafond lui était tombé sur la tête, ou comme si un extraterrestre avait atterri dans son bureau. Mais qu'est-ce qui se passe, fait-elle. Enfin, son regard passe de toi au policier. Chef, c'est la personne que nous avait demandé d'amener première chose ce matin. Mais vous l'avez tabassée. Ça ne va pas, non. Est-ce que je vous ai dit de la brutaliser? Refus d'obtempérer, chef. Elle nous a donné des coups de pied et a même essayé de nous mordre. Eh bien, j'en aurais fait autant si j'avais été traité de la sorte. Soudard vous êtes et soudard vous resterez. Vous me faites honte. Ce n'est pas comme cela que l'on traite des citoyens. Je suis choqué, madame, et je suis vraiment désolé. Ce n'est pas normal ce qu'on vous a fait. Vous ne pouvez pas rester dans cet état. Rentrez chez vous et prenez le temps pour vous laver et vous habiller. Je suis dans mon bureau toute la matinée. Je donnerai des instructions pour qu'on vous fasse entrer dès votre retour. Désolé encore une fois, madame, et avec mes excuses. Elle se tourne vers le policier. Vous me la ramenez immédiatement chez elle, traitez-la avec dignité et respect, entendu? Sinon, c'est à moi que vous aurez affaire. Oui, chef. Il fait le salut militaire. Tu ne dis rien, car tu ne sais que dire devant un ministre en colère et qui s'excuse. Un ministre qui s'excuse, du jamais vu dans ton pays. Tu t'inclines, tout simplement, en signe de respect. Au moment où tu te mets en mouvement pour suivre l'agent, elle interpelle une fois plus ce dernier, sa colère toujours manifeste. Vous la ramènerez dans ma voiture, compris, et avec le moteur de service. Oui, chef. C'est tout juste s'il ne se met pas au garde à vous devant toi quand il t'ouvre la porte.
Extrait 6. Rencontre avec la première dame. Est-ce menacer la République et le gouvernement que de vouloir vendre nos sacs de cailloux à 20 000 francs au lieu de 10 000 ? Nous avons déjà trop souffert, madame, et sur ce point, nous ne transigerons jamais. Elle reste un moment silencieuse après cette dernière phrase que tu as lancée avec passion. Tu te demandes si tu n'es pas allé un peu fort. Attention, Méré, il ne faut pas la braquer contre toi après ces signes de bienveillance qu'elle a montrés envers toi. D'abord, fait-elle, il faut se calmer. Il ne faut pas accuser le gouvernement pour des bavures. Et les bavures, il en existe partout, même dans les pays qui se donnent un exemple de démocratie, comme la France ou les États-Unis d'Amérique. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, et je ne suis pas restée indifférente à la situation. Je suis sortie de mes gonds quand j'ai appris que non seulement on vous avait bastonné, mais qu'en plus on avait tiré sur vous à balles réelles, tiré sur des femmes qui ne faisaient que revendiquer un meilleur prix pour leurs marchandises, est inadmissible, en tout cas pour moi. Mon rôle est de vous aider, mais avant tout, je veux voir clair dans cette histoire. Pouvez-vous me dire franchement s'il n'y a vraiment rien d'autre derrière cette revendication ? Mais bien sûr, madame, que voulez-vous qu'il y ait ? Je veux tout simplement être sûre qu'il n'y a pas de manipulateur derrière. Cette question te déçoit un peu de sa part, car elle montre que son cerveau fonctionne comme celui de tous les hommes et femmes qui ont une parcelle d'autorité pour qui il ne peut exister de revendication spontanée. De notre côté, c'est une question légitime vu sa position. Vous pouvez en être sûr, tu réponds fermement. Elle ouvre un dossier et sort le tract du Rupa que tu avais lu dans le taxi d'Armando. Tu es tellement surprise que tu commences à paniquer. Vous allez donc me dire que vous n'avez jamais vu ceci ? Son ton a changé, sa voix est sèche et toute trace d'affabilité a disparu de son visage. Ce n'était donc qu'un vernis. Mais si, madame, je l'ai même lu. Ils font ce qu'ils veulent et ça n'a rien à voir avec nous. Ouais, vous voulez me faire croire qu'une bande de femmes analphabètes, des petites tâcheronnes qui vivent à la petite semaine, ont pris l'initiative de monter une marche de protestation devant un commissariat de police sans quelqu'un derrière tirant les ficelles ? Vos propos m'étonnent, madame. Comment pouvez-vous dire que vous militez pour les femmes si vous tenez des propos si méprisants à leur égard ? Ce n'est pas du mépris, je connais ma gent mieux que vous. Cela t'agace très fort et tu lâches sans te contrôler. Vous parlez comme les blancs qui disaient « Je connais mes nègres ». Nous ne sommes pas vos négresses, madame.
Extrait 7. Souffrance au travail. Je n'exagère rien. Savez-vous combien nous souffrons, madame ? Le vernis d'amabilité craque une fois de plus pour faire place à un visage sévère accompagné d'une voix pontifiante. La souffrance. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai été nommé ministre de la femme parce que je suis spécialiste de leur souffrance. Et ce n'est pas une promotion canapé, si jamais vous étiez tenté de le croire. J'ai participé à plus d'une vingtaine de conférences nationales et internationales sur le problème des femmes et j'en connais toutes les statistiques. Vous voulez que je vous en parle ? De la domination de l'homme sur la femme ? Des violences domestiques et de celles relatives à la dot ? Au mariage forcé ? Du lévirat ? Des viols et du recours au viol comme arme de guerre ? Des mutilations génitales ? De la sorcellerie ? Du sida ? Du paludisme ? De la vulnérabilité de genre contre lesquelles on ne peut lutter qu'en renforçant la capacité des femmes et leur autonomisation ? Et avec ça, vous voulez suggérer que je ne connais pas la souffrance des femmes ? Savez-vous que, quand je ne serai plus ministre, je chercherai un financement international pour créer une ONG consacrée à améliorer l'accès aux ressources économiques des femmes ? Elle s'arrête pour reprendre son souffle. croyait-elle impressionnée par ce discours, qui n'est rien d'autre que le discours officiel, politiquement correct et droit de l'homiste des institutions internationales avec leur vocabulaire formaté et leur consensus mou. Ne sait-elle pas que tu es la sœur de Tamara, elle, qui tout le temps te décrivait au retour d'un de ses colloques et rencontres de ce type de femme que les institutions internationales recrutent comme experte, qu'elle soit ministre, directrice de projets divers ou d'ONG, consultantes et autres, qui volent de conférences internationales en conférences internationales, tout frais payés, mondaines, parfaites dans la communication et les relations publiques, mais qui en réalité ne connaissent souvent rien du terrain. Dans tout ce qu'elle vient de te dire, il n'y avait rien de concret concernant ton expérience quotidienne. Que sait-elle de la difficulté de votre travail, la quantité de labeur qu'il faut pour faire éclater une grosse roche sous la chaleur d'un feu de bois ou de pneus enflammés, les dangers encourus pour transformer en moellons les gros blocs obtenus de la roche éclatée, la pénibilité du travail pour concasser à coups de masse les moellons en gravier et le temps qu'il faut pour sortir un sac de gravier, le prix payé par vos corps de femmes, sans oublier les nombreux accidents.
Extrait 8, la corruption. Elle se tourne vers celle que tu prends pour sa secrétaire. Celle-ci sort d'un tiroir une enveloppe épaisse en papier kraft qu'elle tend à madame. Cette dernière la pose bien en évidence sur son bureau. Il y a dans cette enveloppe bien plus qu'il n'en faut pour vous en sortir. Pour vos études, pour votre avenir, elle est à vous. Plus abasourdi que toi, il n'y a pas. Tu avais entendu parler de corruption. Tu savais qu'elle était rampante dans le pays. Mais tu n'y avais jamais été confronté. Jusque-là, il n'y avait aucun doute dans ton esprit que tu étais incorruptible. Mais voilà, cette enveloppe est là. Il suffirait de tendre la main, la prendre, la mettre dans ton sac à main, ni vu ni connu, et tous tes problèmes seraient résolus. Dès demain, tu pourrais payer les frais d'inscription pour tes cours d'informatique. Et dans 6 mois, tu pourrais peut-être ouvrir ta propre école, ta propre entreprise, et réaliser ainsi le rêve brisé de ta jeunesse. Et tu ne priverais plus tes enfants de ces petits plaisirs auxquels on a droit à cet âge. En tout cas, dans la vie, il faut savoir saisir sa chance. Et souvent, cette chance n'est pas comme le facteur. Elle sonne rarement 2 fois. Et puis après tout, elle a volé cet argent dans les caisses de l'État, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'il t'appartient un peu aussi. Et alors pourquoi ne pas en profiter? À force de corrompre les gens, la dame peut détecter immédiatement dans les mouvements de leur visage les individus qui acceptent d'emblée de se laisser racheter et ceux qui hésitent et ont besoin d'un petit coup de pouce pour surmonter leur molle réticence. Elle a dû te ranger dans la 2e catégorie, puisqu'après t'avoir observé un moment, elle reprend d'une voix suave, qu'elle veut rassurante. Ce qui se passe dans ce bureau reste dans ce bureau. Personne n'en saura jamais rien. Allez, tenez.
Extrait 9. Les petits métiers de l'hôpital. L'ascenseur est en panne. À vous de descendre votre mort. Cela ne fait pas partie de mon boulot. Tu es tellement choqué par ces propos que tu restes coite, la bouche entrouverte. Atareta, par contre, manifeste son indignation en criant. Mais comment veux-tu qu'on descende le corps sans ascenseur ? Portez-le sur votre dos comme le font tous les autres. Ce n'est pas de ma faute si l'ascenseur ne marche pas, s'il est en panne, c'est qu'il est en panne. Armando ne semble pas outré du tout. D'une voix calme, il demande au garçon. Vous pouvez nous aider, n'est-ce pas? Bah oui, je connais des gens qui sont prêts à vous aider pour pas cher. Ce sont des spécialistes dans leur genre. Je peux aller les chercher, ils ne sont pas loin. Ils attendent en bas, au pied de l'ascenseur. Allez les chercher. L'homme se lance aussitôt dans les escaliers qui descendent 4 à 4. C'est un scandale. Un hôpital qui n'a pas d'ascenseur qui marche lance Atareta encore en ébullition. Commence d'abord par te demander s'il y a de l'eau courante, s'il y a des toilettes. Je sais, Armando, je sais, mais nous sommes quand même dans un centre hospitalier universitaire. Monsieur Armando trouve tout cela normal, tu ironises, ne trouvant rien d'autre à dire. Armando est chauffeur de taxi, Madame Mereana, lance-t-il soudain irrité. Tu ne sais pourquoi. Si tu savais tout ce qu'il a vu dans ce pays. Si tu savais combien de fois il a transporté des morts et des mourants dans son taxi parce qu'il n'y avait pas d'ambulance. Si tu savais combien de bébés il a vu mourir de convulsions paludéennes faute d'une injection urgente parce que l'hôpital n'avait pas une seule seringue. Êtes-vous capable d'imaginer le désespoir des parents qui, après avoir dépensé une fortune en taxi pour faire la ronde des pharmacies de nuit à la recherche d'ampoules de soluté de Kinimax, regardent impuissants leur enfant convulsé à mort parce qu'ils n'ont pas pu trouver une seringue pour lui injecter une solution salvatrice? Armando pourrait continuer ainsi pendant longtemps, madame. Heureusement, Dieu merci, il y a des gens qui savent tirer profit de la situation. Il n'y a pas d'eau courante à l'hôpital? Alors, il y a des gens qui montent et descendent les escaliers pour vous vendre des bidons d'eau. Il n'y a pas de toilette? Alors, il y a des gens qui parcourent les salles, offrant de vider les seaux d'excréments ou de pansements souillés. Il n'y a pas d'ascenseur? Alors, il y a des gens qui vont et viennent dans les couloirs, offrant de transporter par les escaliers les corps des malades qui ont eu la mauvaise idée de mourir à l'étage. Ainsi, les malades ont de l'eau, les excréments sont évacués, les cadavres sont portés à la morgue, tout fonctionne donc bien, alors pourquoi s'en plaindre? Et si le peuple n'y trouve rien à redire, pourquoi se décarcasser à changer les choses, puisque ce qui est routine quotidienne ailleurs est miracle ici? C'est un miracle quand on tourne le robinet que l'eau s'écoule. C'est un miracle quand en appuyant sur un commutateur électrique, l'électricité jaillit. C'est un miracle quand à l'hôpital on vous offre un comprimé gratuit, d'aspirine. Voilà la réalité de notre pays. Armando est au-delà de l'indignation, madame, et il ne veut pas du tout à ce pauvre garçon, parce que lui aussi ne fait que profiter du système. Vous pouvez être sûr qu'il est de connivence avec ses porteurs de cadavres et qu'il touchera sa commission sur ce que nous allons leur payer. N'est-ce pas lui qui leur a procuré la marchandise? En attendant, je vais trouver quelque chose de plus décent pour recouvrir Batatou. Je vous retrouve en bas.
Extrait 10. Un espoir d'avenir. Demain, tu feras le point. Pour le moment, tu savoures le bonheur du devoir accompli. Tu penses d'abord aux autres, même si la tontine d'Issou, Bilala, Mouketou, Asselam et Moyalo ne marchent pas comme prévu et qu'elles abandonnent la partie avant d'atteindre le million, au moins leur horizon se sera élargi. Elles savent maintenant que la vie offre d'autres alternatives pour manger, s'habiller et se soigner que de casser la pierre. Quant à toi, tu as plus que la somme nécessaire pour commencer tes projets. Dès demain, tu iras prendre ton inscription pour ces 3 mois de training en logiciel avec stage en entreprise qui, tu espères, sera le premier pas vers l'ouverture de cette petite école de formation dont tu as tant rêvé. Tout d'un coup, te remonte à la mémoire la proposition que la ministre de la Femme et des Handicapés t'a faite, celle d'être sa conseillère. Comment as-tu fait pour complètement zapper cela de ton esprit? Elle a promis de te rappeler si toi tu ne l'appelais pas, et son coup de fil peut tomber à tout moment. Que feras-tu alors? Ne serait-ce pas drôle de passer du jour au lendemain du statut de casseuse de pierre à celui de membre d'un cabinet ministériel? Hier soir, tu avais confié à Armando que si tu ne rembourses...
On va faire pop 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 pop.
Hier soir, tu avais confié à Armando que si tu ne remplissais pas les 2 sacs qui restaient sur les 12 que tu t'étais fixés, tu vivrais toujours avec un malaise, non seulement celui d'avoir laissé un travail inachevé, mais aussi celui d'avoir lâché tes camarades de chantier. Tu traînes déjà sur ta conscience cette pièce de 100 francs que n'a jamais remise à la femme inconnue qui était venue te la réclamer tard, un soir, au nom de son fils. Tu ne veux pas porter le poids d'un remords supplémentaire. Il te faut donc aller au chantier demain. Et puis, tu as aussi une promesse à tenir auprès de Didina. Une photo de groupe au bord du fleuve.